la DGSE a envoyé des agents enquêter officieusement après la disparition.
Ce qui est d'ailleurs un classique, dès lors qu'un membre des services secrets est mis en cause dans une affaire, il est très souvent le cas que des agents de son service aillent enquêter.
Et le retour, pardonnez-moi Jean-Alphonse, mais le retour est intéressant parce que le verdict de ces agents officieux est clair, une bavure saïroise.
Mais comment savez-vous ça ?
J'étais en contact avec un de ces agents, donc c'est du off également, voilà, je ne peux pas dire de nom. Donc, je n'ai pas la trace écrite.
Donc, vous avez un témoignage
sérieux, tout à fait.
Entre familles de militaires, effectivement, les choses sont souvent plus faciles.
Je ne le connais pas, ce monsieur.
Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez aujourd'hui la certitude qu'il y a toujours dans les archives du ministère de la Défense, les archives officielles, un dossier, Philippe de Dieuleveux, qui n'a pas été ouvert. Qui reste fermé.
Fermé, détruit. Ça fait 35 ans, dans les affaires d'État. Vous savez, mon père disait, dans les affaires d'État, la justice est dépendante du pouvoir. C'est grave de dire ça. Mm-hmm. La justice est dépendante du pouvoir. Mais il avait raison, parce que Africa Raft en est la démonstration. Mm-hmm. Il y a une telle succession de faits dans ce livre qui démontre le mensonge et la manipulation. Et qui démontre complètement la thèse de la noyade. Alors effectivement, on va venir nous voir pour nous dire où sont les preuves. Mais alors, qu'est-ce qu'une preuve si ce n'est la démonstration de la réalité d'un fait ? Ici, vous avez des faits qui se succèdent, fait après fait. Alors s'il y en a un, effectivement, c'est peut-être léger, et je pense que je ne serai pas ce soir devant vous, mais ce livre en est rempli.
Vous avez des faits et des témoignages que vous avez vous-même recueillis et que vous avez collectés au fil de votre enquête. Alors, il y a tout de même un passage extrêmement important dans votre livre. À la fin de votre livre, c'est cette lettre ouverte à Emmanuel Macron, hein, à la fin de votre ouvrage. Que dites-vous au président de la République ? Qu'est-ce que vous lui demandez ?
Déjà, moi, je ne me serais jamais permis d'écrire une lettre ouverte au président de la République sans avoir une succession d'éléments sérieux à présenter.
Sans avoir la certitude.
Exactement. Et moi, j'ai les éléments de mon père qui s'est battu pendant 30 ans. J'ai les documents chez moi. Je les consulte. Et oui, j'y crois à 100%. Tout ce qui est dit est vrai. Ce sont des faits. Il n'y a aucune interprétation. C'est un livre, il n'y a pas de polémique. Alors, il n'y a pas d'attaque personnelle. Il n'y a pas de provocation. Ce n'est absolument pas le but de ce livre.
C'est vrai, je l'ai lu, vous racontez une histoire. Mais ce que je veux dire par là, qu'est-ce que vous demandez au président de la République ? Qu'est-ce que vous lui dites ?
Je lui demande simplement de reconnaître les erreurs du passé. Cette histoire n'est que mensonge et manipulation. Je veux dire, combien de temps on va accepter le mensonge ? Combien de temps on va accepter de nous taire ? Il est enfin temps de rendre justice à Philippe qui n'est pas mort noyé. Alors oui, c'est vrai, je crie des vérités, mais c'est les vérités de mon père, et je les cautionne. Il est mort il y a 5 ans, il s'est battu pour ça. Je pense que ses paroles... ce livre, je ne l'ai pas écrit seul, il était à côté de moi. Et ses paroles, je vais les porter avec lui, au plus haut niveau de l'État.
Et Alexis de Dieuleveux, vous demandez aussi au président de revoir le dossier, de le rouvrir, en tout cas de faire progresser une enquête qui aujourd'hui est à l'arrêt.
Je ne demande pas de rouvrir une enquête. Ça fait 35 ans. Ceux qui savent, s'ils se taisent à vie, on n'aura jamais, jamais la preuve de ce qu'on demande. Déjà, reconnaître cette thèse qui est l'assassinat, la bavure sur l'expédition Africa Raft, puis l'assassinat sur Philippe qu'on a arrêté vivant, ce serait déjà une grande victoire pour moi, pour mon père et pour Philippe. Je ne veux pas que mon père soit mort pour rien. Je veux donner du sens à son travail, à son enquête, et moi je veux rendre justice à mon parrain Philippe. Après, c'est vrai que je demande au président de la République certaines pièces au niveau du Quai d'Orsay, au niveau de la DG aussi, parce qu'il y a un message qui est parti alerter Mobutu d'une menace d'attaque. Il est où ce message ? Est-ce qu'il y a des traces de ce message pour le prouver ? Okito Bene Bene en parle, Christian Proutot en dément pas, je demande effectivement des traces de ce message.
Est-ce que vous pensez, très sincèrement, Alexis de Dieuleveux, que un jour le dossier Philippe de Dieuleveux sera définitivement éclairci ? Ou bien qu'on va rester dans l'ombre et le mystère ?
Mon père y a toujours cru. C'est pour ça qu'il n'a pas écrit ce livre, parce qu'il laissait le temps au temps, il attendait que des gens parlent. Un jour, il a croisé Roland Dumas. Je crois qu'on ne l'a pas encore cité. C'est extraordinaire. Le ministre des Affaires étrangères qui est derrière.
Ancien ministre des Affaires étrangères.
Absolument. Et qui était mandaté par notre président de l'époque, François Mitterrand, pour pour gérer cette affaire, pour camoufler cette affaire, pour étouffer cette affaire. Et mon père, oui, pensait qu'un jour, peut-être, quelqu'un parlerait. Mais aujourd'hui, ce n'est pas trop le propos de mon livre. Mon livre, c'est de démontrer quelque chose. De démontrer qu'il y a du mensonge, de la manipulation et qu'on n'a pas tout dit. Là, vous allez découvrir l'histoire sous un autre angle. Vous allez dans les coulisses d'Africa Raft et des choses que les gens ne connaissent pas. Et ceux qui aiment Philippe, ceux qui s'intéressent à cette histoire, ils vont découvrir une histoire. Je raconte une histoire. Une histoire faite de vérité, de témoignages. Et je demande au président de la République qui a reçu ce livre, je lui ai envoyé ce livre, de le lire attentivement. Et puis, de ne pas fermer les yeux, de ne plus fermer les yeux, de ne plus se taire sur ce type de mensonge d'État.
Vous attendez aujourd'hui une réponse des plus hautes autorités de l'État, c'est ça? C'est le seul moyen de faire progresser ce dossier aujourd'hui?
J'en appelle directement au président de la République aujourd'hui, absolument.
Et pour votre famille, c'est parce que c'est aussi très important. C'est un combat que vous livrez depuis 35 ans maintenant.
C'est un livre hommage. C'est un livre hommage au combat de mon père. C'est un livre à la mémoire de Philippe pour ne pas l'oublier. C'est un livre vérité pour rendre justice à Philippe. Et c'est un livre que je veux très sincère. Il est brut d'authenticité. J'y mets tout mon cœur. Il n'est pas question de gagner de l'argent avec ce livre. Tous les droits d'auteur sont reversés à une association, Aviation sans frontières. Moi, mon objectif, il est ailleurs. Mmh. C'est la vérité.
Merci beaucoup, Alexis de Dieu le veut, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime pour nous parler de votre ouvrage accusateur, Noyade d'État, aux éditions Ballant. Merci à toute l'équipe et merci à tous pour votre fidélité.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
me ka manje ye bati Un loti moun ka moui La te a ka pati La 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 la
Notre invité, il est 6h14.
RTL pour analyser l'info.
Au livre de poche, L'heure des femmes d'Adèle Bréau. Une fresque romanesque qui explore la destinée des femmes des années 60 à nos jours à travers la vie de quatre héroïnes, dont celle de Ménie Grégoire.
RTL, vivre ensemble.
Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, dans RTL Matin.
Aujourd'hui, 1er mai, c'est la fête du travail. Mais moi, je vais vous parler d'amour. Car avant que ce soit la fête du travail, le 1er mai, c'était la fête de l'amour. Mais bon, pas pour toujours.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, avec Laurent Deutsch, tous les jours à 7h20.
À tout à l'heure.
Il n'y a pas d'âge pour apprécier un bon repas. Et choisir les menus services, c'est se simplifier la vie. Les menus services, le spécialiste du portage du repas à domicile qui s'adapte aux besoins des seniors. Les menus services livrent partout en France des repas variés, équilibrés, avec un large choix de produits de saison. Plus d'infos sur les-menus-services.com.
Le prix du carburant augmente, mais vous n'êtes pas prêt à passer à l'électrique. Faites des économies avec la motorisation Renault E-Tech Full Hybrid. Jusqu'à 40% de consommation de carburant en moins et jusqu'à 1100 km d'autonomie. Renault Austral E-Tech Full Hybrid. À partir de 380 euros par mois et 2 mois de loyer offert.
Austral Evolution E-Tech Full Hybrid 200 hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 4500 euros, deuxième et troisième loyer offert. Offre à particulier du 1er au 31 mai si accordiaque, voire conditions sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Jérôme Florin,
RTL Matin.
Et avant de retrouver notre invité, coup d'œil au journal de 6h30, on va parler de la grève de la faim de cette quinquagénaire de Cannes. Vous entendrez la colère d'une propriétaire d'un appartement dont les locataires ne paient plus le loyer depuis 8 mois. La goutte d'eau, ça a été quand la semaine dernière, la Banque de France a annulé la dette des locataires. Plus de 7000 euros d'ardoise effacés, comme ça. C'est ubuesque, dit Daniel.
Déjà ils payent pas, après on leur annule la dette et ils partent pas. Donc c'est tranquille hein, pour eux. Moi je peux pas continuer à perdre de l'argent comme ça et à ce qu'on les protège comme ça pendant je sais pas combien de temps. C'est pas possible ça. Donc moi aussi je vais aller à la Banque de France et je vais leur demander un dossier de surendettement. C'est un peu le chien qui se mord la queue là.
Incroyable histoire à retrouver dans le journal de 6h30.
RTL. Les trois questions du petit matin.
Samara, 13 ans, agressée par un groupe d'élèves devant son collège de Montpellier le 2 avril dernier, n'a pas été victime de harcèlement scolaire. Il n'y a pas eu de défaillance de la part du personnel de l'éducation dans l'agression de cette jeune fille. C'est ce qu'a conclu l'enquête administrative lancée par le ministère de l'Éducation nationale. On entendait hier sur RTL l'émotion de la maman de l'adolescente qui s'était dit choquée par ses conclusions. Et c'est aussi, je crois, votre sentiment, Nora Tirène-Fraisse. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine, fondatrice et déléguée générale de l'association Marion la main tendue. Marion, c'est le prénom de votre fille qui s'est donné la mort en février 2013 parce qu'elle était harcelée. Ce rapport, cette conclusion vous met hors de vous. Pourquoi elle n'a pas été faite sérieusement, selon vous, cette enquête administrative ?
Je ne dis pas qu'elle n'a pas été faite. Bonjour d'abord. Je ne dis pas qu'elle n'a pas été faite de manière sérieuse. Je dis juste que j'ai lu la synthèse, je l'ai relue. Et j'ai noté tous les faits constitutifs d'un harcèlement, c'est-à-dire qui correspondent à la définition officielle, c'est-à-dire une personne qui est victime de faits de violence répétés par un groupe, une meute, et cette personne n'a pas les ressources personnelles pour s'en sortir. Donc moi, j'ai eu plutôt un phénomène de harcèlement dont cette jeune fille et sans doute d'autres ont été victimes. Donc c'est pour ça que quand j'ai lu les conclusions, et je l'ai lu de manière très objective, je n'ai pas compris, j'ai été abasourdie, je me suis dit, alors nous n'avons pas la même définition du harcèlement en milieu scolaire.
C'est
ça qui m'a choquée, c'est pas la mission, et c'est très bien, il faut en mettre en place, mais les conclusions n'ont aucun rapport.
Mais ouais. Cette mission dit, je cite, et vous l'avez lu aussi, qu'on ne peut établir objectivement une situation de harcèlement scolaire à l'encontre de Samara.
Et pourtant, quand vous lisez, j'invite tout le monde à lire. Moi, j'ai lu la synthèse, hein, donc c'est ce qui est mis à disposition du grand public. Il est quand même indiqué des signaux faibles, une chute des notes, de l'insolence, des retards, des absences, qu'elle était souvent, et c'est ça qui m'a surprise, et pas tant que ça en même temps, dans des conflits. Et il ne s'agit pas de conflits quand il s'agit de violences répétées. Il n'y a pas de relation asymétrique quand on est dans des conflits. Et justement, si la personne est souvent dans des conflits, c'est souvent le signe également qu'elle subit des violences. Donc j'étais très étonnée par ce qui a été écrit. Je ne nie pas que le programme phare de prévention du harcèlement à l'école est mis en place. Je suis étonnée qu'ils aient été informés, je crois depuis fin 2023, que cette jeune fille avait subi du cyberharcèlement. Pourquoi l'article 40 n'a pas été levé ? Pourquoi il n'y a pas eu un signalement auprès du procureur ? Parce que c'est une obligation de tout fonctionnaire quand il a connaissance de faits délictuels. Et je rappelle, depuis mars 2022, le harcèlement est un délit. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'indices.
Votre conclusion, c'est quoi ? C'est qu'on fait semblant de ne pas voir ?
Mais j'essaie d'être objective parce que ça m'a quand même rappelé malheureusement notre drame avec Marion. Lors de l'enquête administrative, il était indiqué à peu près la même chose. C'est qu'on ne pouvait pas conclure un harcèlement, un mal-être, parce que là, la jeune fille souffre de mal-être, fait souvent des allers-retours à l'infirmerie. Et pourtant, nous avons continué, poursuivi. Il n'y avait pas de délit de harcèlement. Et nous avions fait condamner l'État partiellement pour harcèlement et défaut de mise en place de protocoles et de prise en charge pour notre fille. Donc c'est pour ça que moi je m'interroge, et il est souvent dit également dans cette enquête qu'il y aura un éclairage de l'enquête judiciaire. Donc moi je souhaite qu'il y ait des éléments, mais de conclure qu'objectivement il n'y a pas de harcèlement. Et autre chose qui m'a surprise, c'est l'absence de sanctions. C'est-à-dire que les faits sont relatés, des violences, des agressions, et pourtant on n'entend pas, on ne lit pas, les élèves concernés ont fait l'objet de sanctions. Et puis je trouve à titre personnel, que la jeune fille est quand même souvent accablée en indiquant qu'elle n'a pas voulu donner le nom de ses agresseurs, elle n'a voulu rien dire. Mais quand on connaît ce phénomène, on sait qu'il y a la peur des représailles, la honte, la culpabilité, la volonté de ne pas être isolée. Et puis dire que ce sont les réseaux sociaux, pas seulement, ils sont réalisés par des élèves. Donc ces élèves auraient dû faire l'objet, un, de sanctions et d'un signalement auprès du procureur.
Mais vous avez raison de rappeler que l'enquête judiciaire, elle, se poursuit. Nora Tirane-Fraisse, on entendait dans un reportage ce matin, les choses bougent quand même, il y a des référents anti-harcèlement qui travaillent dans les collèges, on entendait ça dans un reportage tout à l'heure à Amiens. Donc depuis le drame de votre fille Marion, il y a eu des progrès, on avance, la parole se libère.
Je ne nie pas, j'ai participé pendant 3 ans bénévolement à l'élaboration du programme phare, notamment la communication avec les familles, le volet sanctions, la formation des élèves ambassadeurs, c'est ce que je vous ai dit en préambule.
Mais qu'est-ce qui manque alors aujourd'hui?
Moi, je pense qu'il y a une méconnaissance du phénomène de harcèlement, que les mots ne sont pas posés. C'est pas un gros mot de dire qu'il y a du harcèlement, de toujours se cacher derrière l'idée de conflit. Non, quand c'est du harcèlement, la personne est en souffrance, que peut-être, et c'est indiqué dans ce rapport d'ailleurs, un manque de moyens humains préconise un assistant de prévention et de sécurité supplémentaire. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des faits de violence. Donc bien sûr que les choses sont faites, mais vous savez, pour les personnes victimes de cet établissement ou d'autres, de violence en général, ils ont un sentiment d'impunité et d'injustice, ce qui renforce les violences dans l'établissement, en dehors de l'établissement. Et je trouve que là, ce rapport, parfois, quand vous lisez, dit parfois tout et son contraire dans le même paragraphe.
Bref, il y a encore du boulot, si on vous suit, Nora Tirane-Fraisse.
J'espère que la petite va bien.
Voilà, merci, oui, il faudra qu'elle soit suivie, évidemment, cette jeune Samara.
Et qu'elle scolarité.
Merci beaucoup, Nora Tirane-Fraisse, fondatrice et déléguée générale de l'association Marien, la main tendue. Merci beaucoup à vous, bonne journée.
Merci, au revoir.
Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
Et bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Cinéma ce matin.
Je vous propose ce matin une formidable comédie signée Artus. Et les héros et les acteurs principaux, ce sont des handicapés mentaux légers.
A tout de suite.
Ça s'est passé sur RTL.
Christelle, êtes-vous surendettée?
Oui, j'ai 47 000 euros de dette. Je vais être expulsée de ma maison. J'attends la décision du juge pour savoir quand.
Lucien, bonjour, mon cher Lucien.
Bonjour. Le cas de Christelle ne peut qu'émouvoir et je me proposais tout simplement de l'aider en reprenant sa dette sur sa maison.
C'est formidable d'entendre ça. J'imagine qu'elle est émue, Christelle.
Je ne sais pas quoi dire.
Merveilleux.
Je suis très, très émue.
Merci à tous pour votre générosité.
Vous allez vous en sortir, Christelle. Croyez-en, la solidarité d'RTL.
Et oui, c'est ça, le vivre ensemble sur RTL. Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Exclusif en clair sur M6. Vivez la demi-finale aller de l'UEFA Europa League Olympique de Marseille Atalanta Bergame. L'objectif pour les Marseillais sera de remporter ce match à l'Orange Vélodrome et espérer ainsi se qualifier pour la finale lors du match retour. La demi-finale Olympique de Marseille Atalanta Bergame, commentée par Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri. C'est demain à 20h50 sur M6.
Wow.
Merci d'écouter RTL.
RTL, vivre ensemble. Laissez-vous tenter, première.
Et vous allez peut-être profiter de ce mercredi pour aller au cinéma. Et ça tombe bien, Stéphane Boutsock, vous avez une comédie à nous proposer. Le premier film réalisé par le comédien Artus.
Il tient également le rôle principal aux côtés de Clovis Cornillac dans Un petit truc en plus, l'histoire d'un père et de son fils, braqueurs pas très doués, qui vont devoir se cacher au cœur d'une colonie de vacances pour jeunes adultes handicapés mentaux en se faisant passer l'un pour un pensionnaire, l'autre pour un éducateur spécialisé. Alors le film est un bijou de tendresse, de drôlerie, on se marre, on est ému. L'humour d'Artus est à la fois cache et tendre, et les jeunes comédiens réellement handicapés sont absolument formidables, tout en restant totalement nature.
Je pense que ça ramène un peu aussi à l'enfance, c'est justement ce côté pas de fil, ce côté je te dis quand je t'aime, parce que les... en fait ils ont pas tous ces codes sociaux qu'on s'est rajoutés nous au fil du temps. On a déformé les relations normales qui devraient être, et voilà, eux ils te disent je t'aime, ils te disent je suis content de te voir, ils te disent comme ils te disent je suis fatigué, j'ai pas envie d'être là, là me parle pas, j'en ai pas envie, enfin tu vois. Et en fait c'est cool, ça simplifie tout quoi. Et nous on fait croire qu'on est tout le temps, tout va bien tout le temps, que voilà il faut garder ce masque de... et ce petit sourire hypocrite qui n'appartient qu'aux valides. Pour
c'est rare que le cinéma emploie des acteurs qui sont réellement en situation de handicap, Stéphane.
Oui, on se souvient du 8e jour ou de Presque plus récemment, mais c'est vrai que ce sont des films difficiles à monter. Il faut trouver les bons acteurs, le bon ton à l'écriture, vous savez, rire avec et pas contre, et surtout, convaincre les financiers. Comme le raconte Artus, ça n'a pas été simple.
Pour être tout à fait honnête, on a entendu des choses que je pensais pas qu'on puisse entendre encore en 2024. Mais je vais être tout à fait honnête, il y a des producteurs, il y a des gens qui m'ont dit clairement non, les gens ont pas envie de voir des handicapés à l'écran. C'est ce que je trouve franc et honnête, c'est qu'il y a des gens même qui m'ont dit à la sortie du film merci parce que honnêtement, je voulais pas aller voir un film avec des handicapés parce que je sais pas comment aller vers eux, ça me met mal à l'aise, ça me met truc. Et là en fait, ça y est, j'ai compris qu'il y a pas de façon de parler à une personne en situation de handicap, c'est une personne comme une autre. Tu t'adaptes pas ton langage en fonction de la région d'où vient la personne et tout. Donc là, c'est pareil, parle-lui normal. Si t'as pas compris, dis-lui. En fait, c'est simple. C'est nous qui mettons un truc de... je sais pas comment... Ouais. En fait, c'est très simple.
Artus, réalisateur et acteur du formidable film RTL, un petit truc en plus avec aussi Clovis Cornillac, Alice Belaïdi et donc cette bande d'épatants comédiens en situation de handicap. Ne ratez pas ça à partir d'aujourd'hui au cinéma.
Et un mot du box-office pour terminer, Stéphane.
Avec nos amis du site cbo.fr, Back to Black, le biopic sur la vie d'Amy Winehouse, prend les commandes avec environ 340 000 spectateurs. Kung Fu Panda 4 a largement passé le cap des 2 millions d'entrées et puis autre vainqueur des vacances de Pâques, du Cobu 5 de l'ami Elie Semoun qui approche maintenant les 850 000.
Merci beaucoup Stéphane. On vous retrouve à 12h50 dans RTL Midi aux côtés de Céline Landreau et Eric Brunet. À tout à l'heure.
Laissez-vous tenter, première.
Et on retrouve un extrait de vos grosses têtes que vous écoutez tous les jours entre 15h30 et 18h sur RTL. Les grosses têtes qui nous parlent de sexualité.
Ah non, mais il faut s'explorer pour commencer.
Ah, vous trouvez?
Ah, mais bien sûr. Faut s'explorer.
Ça veut dire quoi?
La bonne sexualité commence par une exploration personnelle. Il faut connaître son corps.
Elle te dit que tu dois pratiquer l'onanisme.
Eh ben, c'est pas possible qu'à ton âge,
il a déjà dû faire depuis longtemps.
Quels sont les différents noms attachés à ton anatomie? Par exemple, est-ce que tu sais que t'as un périnée?
Ah non, c'est les femmes qui ont un périnée.
Mais les hommes aussi, c'est abusé. Mais
Laurent, vous saviez qu'on avait un périnée?
Mais évidemment. Mais...
Et t'as vu le truc un peu pointu au-dessus du nombril? C'est ton zizi.
Mais ça, c'est un périmée.
Alors là, excellent. Excellent. 15h30, 18h tous les jours. L'incontournable sur RTL, vos grosses têtes. Marina.
Pas excellent, la météo.
Non.
Ah non.
Moins drôle que l'histoire du
périnée. Beaucoup moins drôle. Hein. On a deux perturbations et ça va donner un temps bien couvert sur le pays. Couvert, pluvieux, orageux, de la neige en montagne. Et on va surveiller les orages ce soir. Il y a 14 départements en vigilance orange aux orages. À partir de 17h, Lyon, la Marne et l'Aube. À partir de 19h, tous les départements de la région parisienne. Et à partir de 21h, l'Oise, la Somme et l'Aisne. Ce sera vraiment un temps perturbé aujourd'hui sur le pays. Les pluies seront soutenues de la Corse à la Méditerranée et au centre en remontant vers la Normandie. Il y a une zone où là, ce sera un temps sec et agréable. L'Alsace et la Lorraine pour vous. Franchement, profitez-en. Et puis, on aura un peu mieux sur la façade atlantique dans l'après-midi. Moins d'averses et un peu plus d'éclaircies. Côté température, grande, grande différence entre le sud-ouest où on sera 6 à 7 degrés en dessous des moyennes de saison et le nord-est où là on sera 6 à 7 degrés au-dessus des moyennes de saison. 26 à Strasbourg, 10 degrés à Tarbes cet après-midi. On aura 13 à Bordeaux, à Agen ou encore à Biarritz, 14 à Toulouse, à Cherbourg et à Caen, ainsi qu'à Rennes et à Nantes. Il fera 18 à Lyon, mais 21 à Paris, 22 à Lille et 25 à Metz.
Dans un quart d'heure, votre table est du petit matin. Alba Ventura, Martial You, Tom Lefebvre ce matin. Et vous, Marina, bonjour à tous.
Bonjour.
Alba, un cri du cœur ce matin.
Oui, un cri du cœur pour le papa de Mathis qui a écrit une lettre à son fils déchirante. Elle est sur Facebook.
Marina, qui l'eût cru, le mois d'avril a été très doux.
Mais oui, on a eu plus chaud que froid. Météo France a publié hier son bilan pour avril. Je vous détaille tout ça dans un quart d'heure.
Martial, les années 70 sont de retour. Hein. C'était votre dernier livre. Bah oui. Et ça profite à Adidas.
Absolument. Vous avez trois marques qui sont en train de relancer Adidas, qui a beaucoup souffert ces dernières années. Les Samba, les Gazelle et les Campus.
Tom, les pourquoi de l'info avec vous ce matin.
Je vous dirai pourquoi le 1er mai n'est pas un jour férié comme les autres.
À tout à l'heure. Très bon début de journée, vous écoutez RTL. Il est 6h30.
RTL Matin avec Jérôme Florin.
Le journal avec vous, Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
Et à la une ce matin, cette histoire absolument incroyable. Une propriétaire à Cannes en grève de la faim.
Oui, ses locataires ne payent plus le loyer. Leur dette pour les aider a été annulée par la Banque de France, mais ils refusent toujours de partir. Dans ce journal également, la mort du grand écrivain américain Paul Auster. C'est le New York Times qui nous l'apprend ce matin. On y revient dans un instant. Le 1er mai, jour de manif et jour du muguet, mais attention, il y a quand même des règles pour vendre ces bouquets dans la rue. Le PSG qui est à Dortmund ce soir pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Et puis, il n'y aura pas que des pâtes au jambon au JO cet été. Pierre Herbulot a goûté les plats de la cantine olympique, du goût et des vitamines.
RTL Matin.
Et donc, pour commencer, ce sujet qui va sûrement vous faire réagir ce matin sur RTL. Les locataires sont-ils trop protégés en France? On pose régulièrement la question. Et c'est ce que pense en tout cas cette habitante de Cannes qui vient entamer une grève de la faim. Ces locataires en difficulté ne payent plus leur loyer depuis 8 mois. Ils refusent toujours de partir, alors même que la Banque de France, pour les aider à se remettre à flot, a annulé leur dette. 7000 euros de perdu pour cette femme que vous avez rencontrée, Mickaël Lefebvre.
Oui, et c'est justement à partir du moment où elle a appris l'effacement de cette dette que Daniel Trottini a débuté sa grève de la faim. Fatigué, les mains tremblantes, la quinquagénaire est sous le choc après cette décision.
Déjà, ils payent pas, après on leur annule la dette et ils partent pas. Donc c'est tranquille hein, pour eux. Moi, je peux pas continuer à perdre de l'argent comme ça et à ce qu'on les protège comme ça pendant je sais pas combien de temps. C'est pas possible ça. Donc moi aussi, je vais aller à la Banque de France et je vais leur demander un dossier de surendettement. C'est un peu le chien qui se mord la queue là.
Face à une situation financière très précaire des locataires, un couple avec 4 enfants, la commission de surendettement de la Banque de France avait en fait 2 solutions, échelonner la dette ou l'effacer, tout en demandant à ce que le paiement des loyers reprenne au 28 mars. Mais la famille a déjà prévenu qu'elle ne paierait toujours pas. Assise sur son balcon, enchaînant les cigarettes, Daniel reste déterminé à aller jusqu'au bout de sa démarche.
Jusqu'à ce qu'on mène à l'hôpital pour me perfuser. Je pense que c'est comme ça que ça va finir. Tant que je n'ai pas récupéré cet appartement, je ne mangerai pas.
Contactée, la Banque de France ne nous a pas répondu. La procédure d'expulsion pourrait quant à elle durer encore 1 an, à moins que les locataires squatteurs obtiennent un logement social d'ici là.
Merci Mickaël Lefebvre. Et vous nous appelez évidemment au 3210 si vous souhaitez réagir. Rendez-vous comme tous les jours à partir de 13h. Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet.
Oh oui, ça va faire réagir. Bon, on a appris donc ce matin la mort du grand écrivain Paul Auster.
Oui, c'est le New York Times qui nous l'apprend ce matin. Paul Auster est mort des suites d'un cancer du poumon. Il avait 77 ans. Bonjour Simon Marseille.
Bonjour.
Alors, il était mondialement connu, notamment pour sa trilogie new-yorkaise. Et il était très lu en France.
Oui, c'était le plus francophile des Américains. Il est décédé à son domicile de Brooklyn à New York. Paul Auster était un fou de littérature française. La raison, eh bien, ce sont ses nombreux séjours dans l'Hexagone. Il s'y installe de 1971 à 1974. Il vit de petits boulots. Il rencontre la scène artistique parisienne. Dans son livre 4-3-2-1, son personnage Ferguson est logé au 6e étage d'un immeuble d'où il pouvait voir le Quai d'Orsay, le Grand Palais, Montmartre. Bref, un clin d'œil à sa vie parisienne. En 1993, son roman Léviathan remporte le prix Médicis étranger. C'est aussi lui, Paul Auster, qui a traduit Jean-Paul Sartre, Stéphane Mallarmé et Georges Simenon.
Merci beaucoup Simon Marseille. La mort de Paul Auster, donc annoncée ce matin par le New York Times.
6h34, nous sommes le 1er mai aujourd'hui, fête du travail et fête du muguet.
Oui, on va aller voir sur les bords de la route ces vendeurs de muguet, fleuristes, amateurs, un jour dans l'année seulement. Si c'est votre cas, attention quand même, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, Armel Lévy.
Non, vous ne pouvez pas arriver comme une fleur pour vendre vos jolies clochettes devant la boutique d'un fleuriste. Vous devez vous installer à une distance d'au moins 40 mètres d'un commerce spécialisé s'il est ouvert. Pour ne pas lui faire trop de concurrence, les Français dépensent près de 20 millions d'euros au 1er mai pour acheter du muguet, que ce soit chez les fleuristes ou en supermarché. Et comme les installations fixes sont réservées aux professionnels, vous n'avez pas le droit non plus d'utiliser une chaise, une table ou des tréteaux pour vendre votre muguet, sous peine d'amende, autour de 300 euros quand même. Et puis vérifiez, parce que de plus en plus de communes vous demandent de vous inscrire sur leur site internet avant de vendre votre muguet.
Et puis Armel, disons-le également, ne peut pas vendre n'importe quelle fleur.
Non, uniquement du muguet sauvage, sans racines et sans emballage. Vous n'avez pas le droit d'y ajouter d'autres fleurs, puisque les compositions florales sont l'apanage des professionnels. Vous pouvez vendre du muguet de votre jardin ou du muguet cueilli dans les bois, mais pas en grande quantité. La règle de l'Office national des forêts, c'est de ne pas ramasser plus de 10 à 15 tiges par personne, c'est-à-dire pas plus que ce que la main peut contenir. Et je rappelle que les recettes engrangées par la vente de votre muguet aujourd'hui ne seront pas imposées.
Merci beaucoup Armel Lévy. 1er mai, jour de manifestation également, 270 rassemblements prévus dans toute la France. Alors que l'an dernier, en pleine réforme des retraites, le défilé était tendu, cette année c'est le contexte géopolitique qui pourrait créer des tensions, selon le renseignement. La guerre en Ukraine, le conflit au Proche-Orient, également les Jeux Olympiques. Plusieurs organisations, par exemple pro-palestiniennes, appellent à garnir les cortèges. À retenir également, un nouveau riche ce matin en France. Les 166 millions d'euros ont été remportés chez nous hier soir, pas par vous Tom Lefebvre.
Bah non, on n'a aucun bon numéro.
On a joué, bon, on a rien gagné.
On joint le 8h, mais donc...
On a perdu. Bon, tant mieux, ça évitera les conflits entre nous. Pour l'instant, mais évidemment, on embrasse l'heureux ou l'heureuse gagnante ce matin. Un peu d'argent aussi, mais moins pour les naufragés de la 13. L'autoroute va rester fermée, vous le savez, au moins jusqu'au 11 mai à cause des fissures. Eh bien, l'État va prendre en charge 50% du prix du péage de l'autoroute A14, qui est l'itinéraire bis, hein, mais pour les covoitureurs uniquement, c'est 10,60€ l'entrée sur la 14. Et puis à Mayotte, le nombre de cas de choléra s'élève désormais à 29. C'était 13 seulement vendredi. Et donc une nouvelle unité choléra a été ouverte.
Dans l'actualité également, l'appel d'Anouk Grimbert à Gérard Depardieu.
Oui, l'actrice était dans RTL Bonsoir hier. Elle qui est l'une des rares à avoir dénoncé publiquement les agissements de Gérard Depardieu, qui va être jugé pour agression sexuelle en octobre prochain, qui est mis en examen également pour viol dans le cadre d'une autre enquête. Elle lui demande d'assumer et de demander pardon.
Gérard Depardieu, qui est quand même connu pour être un très bon acteur, ça serait pas mal qu'il se dise que là, il y a le film de sa vie à jouer. Il y a trop de témoins pour nier. Il faut qu'il accepte de dire « pardon, mesdames, pardon ». Et qu'il prenne conscience de sa brutalité, de sa sauvagerie, et qu'il accepte, presque artistiquement, qu'il accepte son destin d'homme important dans l'histoire, la très grande histoire.
Voilà, l'actrice Anouk Grimbert hier dans RTL Bonsoir. Précisons que jusqu'à maintenant, Gérard Depardieu a toujours contesté toute violence à l'encontre des femmes. La police de New York est entrée cette nuit dans l'université Columbia pour déloger des manifestants pro-palestiniens qui avaient investi le campus hier soir. Une cinquantaine de jeunes ont été arrêtés. Et puis à Gaza, le chef des affaires humanitaires de l'ONU met en garde à nouveau. Une opération terrestre de l'armée israélienne à Rafah serait une tragédie sans nom. Aucun plan humanitaire ne peut contrer cela. Alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a répété son intention de mener cet assaut, parce que selon lui, les hommes du Hamas y sont réfugiés.
Le PSG est à Dortmund ce soir.
Demi-finale aller de la Ligue des Champions. Le PSG qui est en grande forme en ce moment, qui se déplace d'ailleurs avec un effectif au complet. On les donne favoris, mais Luis Enrique, le coach, reste calme.
Dans tous les domaines, je pense que nous avons progressé depuis le début de saison. Ce qui est positif, c'est qu'on a connu beaucoup de situations compliquées. On a joué en infériorité numérique, on a été mené au score à quelques minutes de la fin, et à chaque fois, on a réussi à surmonter ces situations. Ça donne de la confiance. Mais attention, c'est une ligne fine qui sépare la victoire de la défaite. À ce niveau, chaque petit détail va compter dans cette partie.
Voilà Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, au micro de Philippe Sanfourche, qu'on retrouve évidemment au stade ce soir et aux commentaires aux côtés de Nicolas Georgerot. Ce sera un RTL Foot spécial Ligue des Champions de 20h à 23h autour d'Eric Silvestro. Hier, le Real Madrid a arraché le match nul de partout contre le Bayern Munich. Là encore, en demi-finale, aller de Ligue des Champions.
Et puis, on en vient au menu des JO.
Oui, Sodexo a présenté hier ses plats pour les Jeux de Paris. Plus de 500 recettes et certaines réalisées par des grands chefs. Et évidemment, qui est allé goûter ? Pierre Herbulot.
Oui, et j'ai commencé par m'arrêter sur le stand du chef 3 étoiles, Alexandre Mazia.
C'est un tapioca au bouillon de légumes et semerlu brûlé au saté.
Puis sur celui d'Akram Ben Halal, alléché par l'odeur envoûtante d'une volaille rôtie.
En fait, on fait mariner dans du yaourt avec du jus de citron, du paprika, du piment et du cumin.
Ah bon. En plus de ces plats signatures de grand chef, il y aura des dizaines de stands dans la cantine olympique, bar à pâtes, à salade, grillade, le tout supervisé par Carole Galissant, diététicienne nutritionniste chez Sodexo.
J'ai vraiment laissé passer le culinaire en premier. Par contre, il faut qu'on soit très clair sur les valeurs nutritionnelles pour que l'athlète puisse se repérer.
Moi, j'en ai goûté 4 déjà. C'est-à-dire que là, je ne peux pas aller faire une petite épreuve olympique.
Ah, pas du tout.
Je suis donc allé sermonner la chef Amandine Chéniaud qui venait de me servir un délicieux croissant fourré d'artichauts, de truffes et d'un œuf mollet.
Bah ok, mais bon, ils vont pas en manger 25 déjà. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que ces athlètes, c'est des jeunes qui ont envie aussi de découvrir ce qui se passe en France. Et donc, c'est important aussi.
Bon, bah tant qu'à faire, on va passer vite sur les fruits et les laitages. Surtout que j'ai entendu dire qu'il y aurait du Paris-Brest et de la tarte citron.
Du Paris-Brest, pas avant la compétition quand même.
Non.
Merci beaucoup. Et puis, un moment émouvant hier soir. Raphaël Nadal a peut-être joué son dernier match chez lui en Espagne. En tout cas, il a fait ses adieux au tournoi de Madrid, éliminé en huitième de finale. À bientôt 38 ans, il tente un ultime comeback pour Roland-Garros, évidemment. Peut-être, rien n'est acquis selon lui, même s'il est satisfait déjà d'avoir joué quelques matchs sans douleur et sans grosse douleur à Madrid.
Merci beaucoup Olivier Bois. Est-ce que vous êtes attaché à la tradition du muguet,
vous? Pas vraiment.
Non, pas vraiment. Non, d'ailleurs, vous ne nous avez rien rapporté ce matin. Personne n'a rapporté du muguet en studio.
À 2-3 heures du matin, il y a personne.
Mais vous l'achetez la veille.
Il y a deux plus dans mon jardin.
Vous n'en avez plus. Il y a 2-3 cloches aussi, mais bon.
2-3 cloches.
Et pourquoi vous dites ça?
C'est notre question. C'est notre question ce matin. Est-ce que vous êtes attaché à la tradition du muguet? Est-ce que vous allez acheter votre petit brin? Tout à l'heure, vous dites oui à 52%, non à 44%. Vous votez sur RTL.fr et l'appli RTL, et on a ce message d'Yves sur le groupe Facebook. Cette année, le muguet dans le jardin est déjà fané depuis une semaine.
Oui, mais c'est pas le seul d'ailleurs à nous dire ça. Il y a Lucienne aussi qui en a dans son jardin. Ils sont tous fanés, nous dit-elle. Sinon, pour répondre à la question du jour, il y a Marie-Laure qui va en acheter pour 2-3 personnes aînées auxquelles elle est certaine de faire plaisir. Nous avons Anne-Martine qui les achète, mais qu'à la Croix-Rouge, parce que ça sert une bonne cause. Alexandre, lui, il va rapporter un brin de muguet à la maison avec les croissants. Bien, Alexandre, je suis à la limite de vous donner mon adresse aussi. Alba, ça pourrait être pas mal. Nous avons Marlène qui non, parce que si elle aime la fleur, elle n'aime pas du tout son odeur, donc elle ne va pas en acheter. Et puis il y a Anne-Martine qui nous dit, bien, le must, c'est d'avoir le brin avec 13 clochettes. C'est apparemment tellement rarissime, c'est le bonheur absolu. Elle l'a reçu une fois.
Merci Marina. On va faire un détour aussi par le répondeur RTL parce que vous êtes nombreux à réagir au sujet de la jungle des limitations de vitesse. Nous en parlions hier matin. 17 changements de limitation en moyenne sur 100 km de route nationale et départementale. De quoi en perdre son latin. Mais Ludovic a la solution. Il nous a envoyé un message sur le répondeur.
J'ai trouvé la solution pour ne pas avoir de procès. Je fais de la conduite. Je ne fais pas autre chose. Je laisse le téléphone. Je ne suis pas occupé à changer la radio. Je laisse RTL et je regarde la route. Et j'anticipe. Je regarde loin.
Ben voilà une bonne idée. Ludovic sur le répondeur RTL. Tous vos messages, c'est via l'application RTL ou sur le site RTL.fr. Vous allez dans Intervenez. Et c'est évidemment sur le 3210 également. Prochain rendez-vous pour vous exprimer en direct sur l'info à 13h dans Les Auditeurs ont la parole. Dans votre tablée du petit matin, cette lettre bouleversante du père de Mathis qui a ému Alba, vous l'entendrez. Et puis, tout autre sujet, Adidas qui en a sous le pied. Hein,
absolument,
Martial.
Avec des baskets qui relancent la marque et des vieilles baskets.
6h43.
RTL Matin avec Jérôme Florin.
Bonjour, c'est Flavie. Papillomavirus, cancer, ado, il est des mots qui inquiètent. Et en tant que maman, je vous comprends. Le virus HPV touche 8 personnes sur 10 et peut provoquer des cancers. Mais que l'on peut prévenir grâce à la vaccination et au dépistage. Parlez-en à un professionnel de santé.
Contre le papillomavirus, protégez vos ados en collaboration avec MSD.
RTL.
Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand ?
Désolé, le mouton à 5 pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit. APEC, donnez de l'élan à votre avenir.
Jérôme Florin, RTL Matin.
C'est l'une des informations de la nuit aux États-Unis. L'information, l'intervention de la police de New York pour lever le blocage du campus de l'université Columbia. Des étudiants et militants pro-palestiniens étaient barricadés dans un bâtiment de l'université. Ça fait 2 semaines qu'il y a des mobilisations étudiantes dans plusieurs grandes universités de la côte Est et en Californie. Columbia a été le point de départ de ce mouvement contre l'intervention israélienne à Gaza. La présidente de l'université demande à la police de New York de rester sur le campus au moins jusqu'au 17 mai. On y revient dans le journal de 7h.
RTL.
6h44, bon 1er mai à tous. C'est l'heure de votre tablée du petit matin avec Martial You, Tom Lefebvre ce matin, Marina Giraudot et vous, Alba Ventura. Alba, vous avez été émue hier par la lettre du papa de Mathis à son fils.
Comment ne pas l'être ? Elle est bouleversante, cette lettre. Alors, vous la trouverez sur Facebook. Elle vous arrache, bien sûr, les larmes, puisque c'est la lettre d'amour d'un papa qui a choisi de s'accrocher, qui écrit entre l'option 1, qui consiste à se morfondre, à choisir la haine et la colère. J'ai choisi l'option 2, vivre pour toi et me marrer en ta mémoire. Alors, il y a de la douleur, mais il y a aussi de l'humour. Christophe écrit à Mathis. En fait, le plus dur aujourd'hui, c'est d'imaginer qu'on ne se verra plus, que je ne te réveillerai plus le matin quand ton réveil gonfle tout le monde depuis 30 minutes, mais que toi, tu ronfles. Mmh. Je ne te verrai plus avec tes fringues roses, tes pompes roses, mais bordel, c'est quoi cette passion du rose ? Alors, tout est comme ça dans cette lettre. Hein. C'est à la fois déchirant et parfois on sourit en lisant ce papa qui appelle son fiston mon matou ou ma grosse loutre. Parce que Mathis trouvait que les loutres, c'était un animal mignon. Et d'ailleurs, Christophe, le papa, propose de mettre une photo de loutre, le petit museau, plutôt qu'un carré noir en hommage à Mathis. Christophe qui n'oublie pas de rappeler aux parents de surveiller leurs enfants, car la vie est fragile. Et je voulais rendre hommage à ce papa, à toute cette famille, parce que depuis la mort de Mathis, que ce soit dans la peine ou face à l'emballement politique, Christophe a fait preuve d'une grande dignité. D'ailleurs, comme toutes ces familles frappées par un drame atroce qui trouve la force, la dignité de dire aussi aux politiques de rester à distance, d'arrêter avec la récupération sauvage, comme on l'a connu à Crépol après la mort de Thomas et comme l'ont vécu d'autres familles endeuillées.
Merci beaucoup. Un point, c'est tout signé Alba Ventura ce matin, 6h46. Tout autre sujet. Marina, température en baisse ce matin, vous le disiez, à moins 8 degrés
dans le sud-ouest.
Dans le sud-ouest, on perd beaucoup. Alors, il y a eu beaucoup de froid ces deux dernières semaines, mais vous nous le dites, le mois d'avril est a été plus doux que la normale. C'est étonnant et contre-intuitif.
La température en avril est de plus 0,7 degrés au-dessus des normales, donc par rapport à la période 1991-2020. Bilan établi hier par Météo France, c'est le 27e mois consécutif que les températures sont au-dessus des moyennes de saison. Mmh. Ça fait plus de 2 ans, depuis février 2022, que l'on n'a pas eu un mois frais.
Alors en fait, la chaleur des 15 premiers jours était plus intense que la fraîcheur des 15 derniers.
Bah oui, on a juste la mémoire un petit peu courte. Hein. On en a parlé la semaine dernière, hein, mais la première moitié du mois, on a battu de nombreux records de chaleur avec 2 pics. Le samedi 6 avril, il n'avait jamais fait aussi chaud aussi tôt dans l'année, avec une température moyenne de 17,6 degrés. Record pulvérisé le samedi d'après, le 13 avril, avec 17,9 degrés. Rappelez-vous, on a dépassé les 30 degrés dans de nombreuses villes, hein, comme Orthez, Tarbes, Pau ou encore Carcassonne.
Et à partir du 16 avril, dégringolade du thermomètre.
Voilà, et ça, on s'en souvient un petit peu plus. 15 jours de fraîcheur avec des gelées, moins 5 degrés à Chaumont, en Haute-Marne. En montagne, à Tignes, moins 16 degrés à plus de 2000 mètres d'altitude. À Nice, on a même eu un après-midi à 4 degrés. Mais ce n'était pas des records.
Et côté pluie et ensoleillement, ça a été un mois d'avril normal ?
Oui, en moyenne, plutôt normal. Bon, il y a des disparités régionales. Hein. Les pluies ont été plus abondantes dans le nord et le centre-est du pays, déficitaires dans le sud. Et l'ensoleillement plus fort dans le sud que dans le nord. Mais ça reste quand même dans les normales côté pluie et ensoleillement.
Et le vent, j'ai l'impression qu'il y en a eu plus.
Bah, c'est pas une impression, vous avez raison. En fait, avec le défilé des perturbations, on a eu en effet plus de vent que d'habitude. Dans le sud, par exemple, Mistral et Tramontane aussi ont bien été présents. Le Mistral a soufflé en rafale pendant 9 jours consécutifs à minimum 90 km par heure. Après, il a continué de souffler, mais juste un peu moins fort. En fait, la météo d'avril a été changeante. Cette variabilité, c'est finalement assez représentatif d'un début de printemps. C'est juste que les pics, que soit la chaleur ou la fraîcheur, était bien marquée hein, ce mois-ci, plus fort que la normale.
Merci beaucoup Marina, 6h48.
RTL.
Toute l'actu économique avec Préfonds. Retraite, prévoyance et épargne de la fonction publique. Rendez-vous sur préfonds.fr. Préfonds, le référent depuis 60 ans.
L'Ecoagnew, Martial Youf, et donc Adidas qui revient dans la course après des mois assez compliqués, hein, grâce à des marques de chaussures vintage. C'est
oui.
La mode.
Trois sneakers. Yeah. On ne dit plus basket, sinon ça fait vieux. Donc des sneakers au design très...
Oh, c'est sûr que ça fait jeune. Les sneakers.
Ouais. Très 70s, ces chaussures, puisque c'est les collections Samba, lancées en 1972, Gazelle, 1968, Campus, 1978. Des chaussures donc hommes-femmes pour tous les jours. Et c'est un carton. Les ventes ont décollé de 13%, ce qui a relancé la marque, qui en avait bien besoin, à tel point qu'Adidas réfléchit maintenant à ressusciter une autre collection mythique.
À laquelle ?
La gamme Superstar. Superstar.
Vous l'avez...
Vous l'avez déjà vu, cette marque. C'est une tennis en cuir blanche, la plupart du temps, avec trois bandes de la même couleur sur les côtés. Elle a été lancée en 1969 et puis elle a connu son heure de gloire dans les années 80 grâce à eux.
Run DMC.
Et c'est ça, exactement. Run DMC, c'est du rap des années 80 américain, des rappeurs qui décident de se montrer habillés en sportswear et chaussures de sport, des Adidas. Et la chanson que vous entendez là, eh ben, s'appelle My Adidas, justement.
Donc il y a un rappeur entre les rappeurs et Adidas. Et voilà, il fallait la faire. Le vintage, donc, fait vendre.
Oui, et puis les sneakers, surtout, parce que c'est quasiment une vente de chaussures sur deux désormais, mais plus 15, plus 20% par an. Et puis c'est un succès qui coûte pas cher, effectivement, puisqu'Adidas puise dans son catalogue et dans le retour des années 70 pour séduire un public de quinquagénaires déjà qui ont du pouvoir d'achat et qui veulent rester dans le coup, et puis une nouvelle génération de 25-30 ans urbaine, tout ça pour faire oublier le traumatisme de 2023 qui a failli coûter très cher à la marque centenaire.
Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ?
Adidas a été obligé de rompre un partenariat en or avec un des hommes les plus puissants de la planète, lui. Kanye West, bien sûr, le rappeur. Il a créé une collection baptisée Yeezy qui réalisait une grosse partie des ventes d'Adidas auprès des jeunes. Mais le rappeur a tenu des propos antisémites. Adidas a cassé le contrat. Mais il lui restait aussi un stock de chaussures d'une valeur de plus $1 milliard sur les bras. Donc les ventes se sont effondrées, moins 5% dans la foulée de cette rupture. L'équipementier a dû brader son stock pour s'en débarrasser. Un gouffre financier. En 2022, Adidas affichait un bénéfice de 612 millions. En 2023, le groupe finissait avec un trou de 75 millions. Vous voyez le delta, cette année, c'est retour dans le vert a priori.
Donc, belle remontada.
C'est ça, et grâce aux clients européens et chinois, parce que c'est toujours compliqué aux États-Unis. Et grâce aussi à une prise de guerre, un mercato incroyable, Adidas est allé recruter le patron du frère ennemi, Puma. Et quand je dis frère ennemi, je pèse mes mots. Ah,
et pourquoi ?
Parce qu'Adidas et Puma, c'est l'histoire justement de deux frères à l'origine, Adolphe et Rudolf Dassler. Alors, ils lancent leur fabrique de chaussures de sport en Allemagne aux alentours des années 20. Ils fournissent l'équipe nationale olympique au JO de 1928 à Amsterdam. Ils sont tous les deux membres du parti nazi. Mais Adolf, surnommé Adi, s'éloigne d'Hitler assez vite, à l'inverse de Rudolf. Donc à la fin de la guerre, les deux frères peuvent plus se voir, ils ne veulent plus travailler ensemble. Adolf crée donc, puisqu'il est sur son surnom, c'est Adi Dassler, vous l'avez.
Bon,
et Rudolf crée, lui, Ruda, qui va transformer assez vite, parce que c'est pas très vendeur, en Puma. Oui. Et donc Adidas renaît grâce à un ancien de chez Puma. Et certaines rumeurs disent même que la marque aux trois bandes aimerait bien devenir le fournisseur maintenant de l'équipe de France de foot pour les maillots à la place de Nike.
Votre plus, encore une enseigne de prêt-à-porter en redressement judiciaire.
Et on continue à monter en gamme parmi les marques en difficulté, puisque cette fois c'est Polka. Donc là on est vraiment aux prémices du luxe abordable et pas sur des marques à tout petit prix.
Et puis votre note 10 sur 20 Starbucks.
C'est l'heure du café, mais alors c'est pas chez Starbucks en ce moment, puisque la fréquentation baisse avec un nombre de ventes en chute de 6% au niveau mondial. À l'annonce des résultats, le titre a même perdu 10% à la bourse.
Merci beaucoup, Martial You. Ah ouais, les pourquoi de l'info avec vous ce matin, Tom Lefebvre. C'est le 1er mai, ça ne vous a pas échappé. Alors, c'est un jour férié, pas comme les autres.
Oui, car c'est le seul jour obligatoirement chômé pour tous les salariés de toutes les entreprises. On connaît évidemment par cœur les jours fériés. Il y en a 11, le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 11 novembre ou encore le jour de Noël. Mais contrairement aux idées reçues, tous ces jours fériés ne sont pas des jours chômés. C'est au bon vouloir de l'employeur de vous laisser au repos. Dans ce cas-là, vous ne perdez pas de revenus, mais il peut très bien vous contraindre à travailler.
Alors pourquoi le 1er mai est particulier, Tom ?
Car c'est le seul jour férié et chômer donc obligatoirement pour tous les salariés, quel que soit leur âge, leur sexe ou leur ancienneté, avec un maintien de leur salaire. Bon, la seule exception de ceux qui travaillent, ce sont les services qui ne s'arrêtent jamais, les hôpitaux, les forces de l'ordre ou encore les transports publics.
Mais ils sont payés plus alors ?
Oui, leur revenu est traditionnellement multiplié par deux à la charge de l'employeur, c'est une obligation légale, ou alors il y a d'autres alternatives, par exemple un jour de repos supplémentaire.
Et il y a d'autres jours fériés qui arrivent en mai ?
Oui, il y en a trois autres, et si vous m'avez suivi, vous aurez compris qu'ils ne sont pas obligatoirement chômés. Ouais. Il y a mercredi prochain, le 8 mai, puis le lendemain, le 9, ce sera l'Ascension, et enfin le lundi 20, lundi de Pentecôte, l'occasion pour les plus chanceux de faire de beaux ponts. Et donc, pour ces jours uniquement fériés, plusieurs cas de figure. Soit vous ne travaillez pas, donc vous ne perdez pas d'argent, soit vous travaillez, et là, le jour est rémunéré normalement, à moins que les accords collectifs ne prévoient que le salaire soit multiplié par deux ou donc que vous ayez un jour de repos supplémentaire.
Merci beaucoup Tom Lefebvre, merci à toute l'équipe. Alba, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito.
Voilà, 1er mai, jour férié, jour chômé, mais aussi jour de défilé syndical en ordre dispersé.
Et bien justement, on a une chanson sur le 1er mai.
Le méguet,
c'est quoi, c'est Henri Dess, ça, c'est quoi? C'est notre réalisateur qui nous a trouvé ça, je ne sais pas.
C'est pas du Kenny West.
Non, c'est pas du Kenny West, c'est pas du Run DMC.
On préfère Run DMC.
Bonjour Louis Bedin.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
1er mai.
Sous la pluie.
Ouais, sous la pluie, c'est ça. Merci. On peut y aller maintenant parce qu'il n'y a pas de pub.
Oui. Ah, on y va maintenant. Voilà,
tout de suite. Allez, on bosse là maintenant. C'est jour chômé, mais on travaille.
Avec de la pluie, effectivement, elle est déjà très présente dans la moitié sud. Beaucoup de pluie près de l'Atlantique. Des pluies parfois accompagnées d'orages. Et puis ces pluies vont remonter lentement, mais sûrement vers la moitié nord. Donc toutes les régions seront concernées en cours d'après-midi, sauf la plaine d'Alsace, où là le soleil devrait résister un petit peu plus longtemps. Peut-être quelques éclaircies près de l'Atlantique, pas sûr du tout, avec là aussi des averses. Et puis on va surveiller en fin de journée l'activité orageuse. Pourquoi ? Parce qu'on a de l'air frais qui arrive par l'Atlantique, de l'air très chaud ou très doux, en tout cas pour les périodes qui résistent dans l'Est. Et à la rencontre entre les deux, on craint quelques orages violents ce soir. Alors ça sera sur la Bourgogne, probablement sur l'Île-de-France, dans la soirée, la Picardie ou encore la Normandie. Donc on va surveiller tout au long de la journée cette évolution. Mais retenez surtout donc les pluies, ces orages, la neige en montagne, elle va tomber en abondance à partir de 1400 mètres à peu près sur les Pyrénées, 2000-2200 mètres sur les Alpes. Voilà, ça reste très très humide. De la pluie sur les Pyrénées orientales, ça c'est encore une bonne nouvelle. Et puis côté température, donc gros contraste entre l'ouest et l'est. Dans l'ouest, nous serons entre 13 et 15 degrés seulement, donc on repasse en dessous des moyennes de saison. Dans l'est, en revanche, on aura encore 16 à 22 degrés. Et en pleine d'Alsace, comme là, le soleil va résister plus longtemps, on pourrait encore frôler les 25 ou 26 degrés.
Eh bien, décidément, merci beaucoup, Louis. C'est un temps à se consoler avec Run DMC. Ça, c'est pour Alba, parce que... Je vois bien danser là-dessus avec des pantalons très larges, des casquettes
sur
à l'envers.
Le floor à l'époque.
Il y a quoi, il y a 40 ans, quoi.
Ah, ils sont là. Bonjour Amandine, bonjour Yves.
Bonjour Run DMC, notre Alba.
Ah oui, oui, mais je n'ai jamais vu ce dos de liné ainsi.
Bah non, bah écoutez, je suis heureux de le découvrir. Pourquoi elle le fait avec vous et pas avec nous?
Oui, non, mais j'arrive.
C'est la question du jour, dites donc.
Elle arrive, elle va vous parler des défilés du 1er mai. Autre ambiance.
Ça, c'est autre chose, c'est le muguet en quelque sorte.
Oui, c'est ça.
Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Donc, bonjour à toute l'équipe. C'est un Français qui a gagné le tirage de l'Euromillion hier soir.
Il y a de la chance.
Bah oui, 166 millions d'euros. J'espère vraiment qu'il a relu sa grille. Et maintenant, il faut d'ailleurs qu'il soit discret. Une chose est sûre, ça n'est pas nous, Amandine.
Et oui, à ce propos, alors Tom Lefebvre, on a une petite réclamation.
Oui, on aimerait bien faire une mise au point, mon petit bonjour.
Je me fais tout petit ce matin.
Voilà, dans le journal de 8 heures, voilà. Je le dis pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi, hier, vous nous aviez donné des numéros qui ne tombent jamais. Voilà. Eh bien, c'est raté, le 22, par exemple, qui sort le moins souvent. Il est tombé hier soir. Même chose pour l'étoile 5. Franchement, ça ne va pas du tout.
Je suis désolé, je m'excuse.
Vous pensez vous en tirer comme ça?
Je m'en vais.
Non, mais il achète,
il a peut-être gagné les,
il achète du champagne pour toute la rédaction pour se faire pardonner.
Ah, non, mais lui, il a gagné.
Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, il faudra faire un petit effort pour la prochaine fois. Alors, je vais quand même rappeler à nos auditeurs le tirage d'hier soir. Le 13, le 22, le 24, le 33, le 47... Et les deux étoiles, 5 et 1. S'il vous plaît, vérifiez si vous avez joué, parce que ce serait vraiment totalement idiot de passer à côté.
166 millions d'euros, on rappelle.
Voilà, 166 millions d'euros. Je ne sais pas comment ça se place. Vous avez vous avez quelqu'un à côté de vous qui sait faire
Martial.
Du placement?
Martial, oui,
je vais ouvrir mon petit bureau de conseil fiscal juste après.
Non, mais spontanément, vous gagnez les 166 millions. Qu'est-ce que vous faites comme placement? Je suis sérieux.
Ah, moi, je mets dans l'immobilier.
Je suis à l'ancienne. Ah oui, oui, je ne pars pas dans les placements financiers. Ah,
vous achetez des murs.
Pourtant, on voilà. nous dit que ça chute l'immobilier.
Il achète la rue de la paix.
Non, mais l'immobilier, ça reste sûr.
C'est quand ça chute qu'il faut acheter.
Très bien. Le conseil du jour, alors.
Oui, alors l'information du jour, Martial Liu vous le dit, si vous venez de gagner au dernier tirage du loto, ben, investissez dans la pierre. C'est pas ce qu'il y a de plus sexy, mais en tout cas, c'est stable. C'est bien ça, j'ai compris.
Exactement.
Formidable. Exactement. Merci à toute l'équipe. On vous retrouve demain.
Merci
matin,
à demain.
4h30 avec grand plaisir. Nous sommes donc le mercredi 1er mai 2024, 01 05 24. Plein de chiffres ce matin. Très belle journée à vous tous qui nous écoutez. Merci de nous être fidèles. RTL, il est presque 7h.
7h, 9h,
RTL Matin.
Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
Et le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une ce matin, la disparition de l'écrivain Paul Auster.
L'un des plus francophiles des auteurs américains, l'auteur de Moon Palace, avait 77 ans. La mesure entre en vigueur en cette fête du travail. Il faudra désormais mettre 100 euros de sa poche pour se former grâce à son compte personnel.
Et en ce 1er mai à 7h40, je reçois ce matin le président de l'UE.